Voilà, la résilience. La capacité à surmonter les épreuves. On a beaucoup d'épreuves dans la vie. C'est pas toujours évident. Il y en a qui commencent mal dans leur vie. Ils commencent déjà avec un déficit, avec un problème, avec plusieurs problèmes. Et surmonter tout ça n'est pas évident. Alors, en physique, la résilience produit l'aptitude d'un corps à résister au choc et à reprendre sa structure initiale. On est là, dans les colliers, en forme du départ. Adaptée à la psychologie, elle désigne la capacité d'un individu à surmonter les moments douloureux de l'existence et à se développer en dépit de l'adversité. Se développer malgré les souffrances, malgré les échecs, malgré les difficultés de base qui sont rencontrées ou les difficultés qui viendront par la suite. Parce que là, tout va bien, mais à un moment donné, il y a quand même un problème et il faut encore être capable de surmonter cela. Autrement dit, la résilience consiste à prendre acte d'un traumatisme. Par exemple, un deuil, un abandon, un inceste, une violence sexuelle, une maladie, la guerre, ceux qui ont été au front. Pour certains, ils ne s'en remettront jamais, et d'autres, étonnamment, s'en remettront. La résilience est un concept qui a été étudié par des personnes qui ont vu un certain nombre de personnes qui ont subi la guerre. Un certain nombre n'ont pas surmonté ce qu'ils ont vécu. Et un certain nombre, à peu près 20%, ont surmonté tous les guerres. Et comment est-ce qu'ils ont surmonté? Parce que après, on a constaté que ces enfants-là, ils étaient complètement, non, tout à fait comme ceux qui n'avaient pas connu ce problème de guerre. Comment est-ce que c'est possible qu'ils soient sortis de cela? Parce qu'il y a une possibilité dans leur vie de rebondir. Autrement dit, là, donc, on peut remonter par rapport à son traumatisme, on peut apprendre à vivre avec, on peut rebondir en changeant de perspective, voire même à se délivrer d'un passé en pardonnant pour en sortir du grand. Parvenir à passer outre la montagne de difficultés qui est là, où la montagne, c'est pas simplement une montagne difficile, c'est quoi, intérieurement, nous vivons un traumatisme. C'est différent de passer une difficulté qui est une montagne que nous devons escalader pour arriver au sommet. Mais quand c'est à l'intérieur que cette montagne se trouve, ça peut être une angoisse, ça peut être un traumatisme. Vous voyez, les gens qui sont partis à la guerre, on peut dire marqués à tout jamais. Certains ne parlons pas à exprimer ce qu'ils ont vécu, ils ont vécu des choses horribles. C'est comme si vous avez pu voir une vue en bas, au cinéma, il y a une morale extraordinaire. Mais quand même, c'est que lorsque c'est monté dans le détail, il y a une sorte de bien voir de monter le sang. C'est assez dur à voir. Mais c'est quand même un film extrêmement matin, je trouve qu'il y a une morale derrière très puissante, donc je ne dénigre pas. Certains ne s'en sortiront pas, d'autres s'en sortiront. Parce qu'ils trouveront, bien sûr, en eux-mêmes, mais certains trouvent aussi en Dieu. En Dieu, Dieu nous donne aussi des capacités pour nous en sortir. Mais c'est surtout en lui que nous pouvons aussi rebondir. La résilience permet de dépasser son état actuel. La résilience permet de dépasser l'état actuel. Il y a une perspective. Il y a quelque chose devant Les personnes résilientes, c'est les personnes qui voient plus loin que l'épargne dans lequel ils se trouvent. La résilience est un processus de restauration. Je ne pense pas qu'on passe de A à Z comme ça, mais il y a des étapes pour arriver à une restructuration, à être, je veux dire, entre guillemets, reconditionné par Dieu au pouvoir. Et Dieu nous donne à l'intérieur de nos vies des capacités au niveau de notre psyché. Dieu nous donne la capacité aussi de pouvoir nous restaurer. Et avec Dieu, c'est toujours beaucoup plus facile. Parce que le croyant, il a la foi. Il a la foi à l'espérance. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il y a l'espérance que ça a lieu pour nous-mêmes. Il y a l'espérance que Dieu va contribuer à notre bonheur, pour nous aider à surpasser, surmonter ce qui nous vivons. La résilience change le cours d'une trajectoire négative. Vous savez, la trajectoire négative, on arrive au fond, et remonter à partir du moment où nous sommes dans une pente, où nous sommes arrivés en bas, il est possible de remonter. Voilà, l'échelle des émotions, allons, choc, déni, c'est peut-être une manière de voir les choses ici, le refus de ce qui nous arrive, la colère, la peur, la négociation, le marchandage, la dépression, on en arrive tout au fond à la tristesse, et puis l'acceptation, le pardon, la quête de sens, pour arriver à la sérénité, la paix de tous les premières. Hein. On peut donc passer très très bas et remonter vraiment bien haut. Donc la résilience change au cours d'une trajectoire négative. Une personne résiliente parvient à contrer sa vulnérabilité psychologique. Hein. Nous sommes tous vulnérables par certains points de vue. On n'est pas des surhommes en niveau filable. Et donc, certains faits ne créeront pas un problème pour certaines personnes ou pour d'autres, mais nous sommes vulnérables. Donc, ça, c'est. Oscar, Paul Chadot, en 2011, disait ceci : la résilience est la capacité qu'un individu a de générer des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux pour résister, s'adapter et se fortifier face à une situation de risque générant une réussite individuelle, sociale et morale. Donc, la résilience, c'est la capacité d'un individu à de générer des facteurs biologiques, psychologiques, sociaux pour résister, s'adapter, se fortifier face à une situation de risque. La résilience permet de se remettre d'un deuil, d'une maladie, d'un acte violent ou des conséquences d'une guerre. Donc, la résilience, c'est se remettre debout et rebondir. Voilà, là, vous voyez ici, vous voyez, on a mis un panneau là, et ce panneau-là, il doit grandir, et ça doit être un peu par l'arrière, et c'est impossible que ce panneau puisse être à un autre endroit. Et donc, ben, il a intégré ce panneau dans mon temps. Le panneau de circulation a été intégré dans l'arbre. Donc, il a quand même grandi. Ça ne va pas empêcher que, et vous avez déjà vu ça, certainement, quand même, ils ont trouvé le moyen de continuer à résister, à grandir, à développer. Alors, le développement de pensée de résilience, comme je le disais, est évoqué d'abord dans les années 40 par un étudiant sur les Américains, puis en France au début des années 80 par John Bowlby, déjà psychanalyste. Le concept de résilience fut popularisé par Boris Cyrulnik, ethnologue, neuropsychiatre et psychanalyste. Il a exposé au grand public la résilience comme vecteur d'espoir. En observant divers groupes d'individus survivant des camps de concentration, dans les camps de concentration, c'est horrible, certains n'ont pas pu. Pendant 50 ans, considérer que les gens vont pas plus s'exprimer. Parce que vous pensez que personne ne va les croire, premièrement, et de toute façon, s'ils osent les parler, on ne les prend pas. Ce n'est pas tolérable, ce n'est pas acceptable ce qu'ils disaient, ce qu'ils avaient vécu. C'est la réalité, mais ce n'est pas possible. C'était simplement impossible que ce soit réalisé. C'est pas possible. C'est pas acceptable pour l'intelligence humaine que ce sont des gens qui sont tués. Et en ce qui est là-haut, certains ne sont pas sortis d'affaires à l'intérieur. Mais d'autres ont pu apprendre à vivre. Certains ont pu exprimer ça par des dessins. D'autres par des écrits, dans écrits. Vous savez, dans une époque difficile de ma vie, dépressive de ces gens, et ce qui m'a aidé beaucoup, c'est d'écrire. J'écris des poèmes. Et ça, c'est que j'ai exprimé quelque chose qui était à l'intérieur de moi. Et donc, je comprends aussi que certaines personnes dans des camps de concentration ou dans des camps, ce qu'on disait que d'être dans des camps de concentration, le Catan de Bossin, le Marin Blanc, etc., il y a eu des gens qui ont décidé ce qu'ils vivaient. Ça permettait d'exprimer, de sortir d'eux et de pouvoir mettre des mots aussi, de pouvoir expliquer de leur vie, quelque part, de sortir de cela et de pouvoir finalement se remettre debout. Et je pense que c'est tellement important. Donc, il a observé différents groupes, donc des enfants, des plus boliviennes, avec en Bolivie, c'est quelque chose de terrible, c'est quelque chose qui se passe. Les enfants de la rue qui sont livrés à eux, plus personne ne s'en occupe, sont vraiment considérés comme rien. Et comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir? Quel est le style de même? Comment est-ce qu'on peut survivre à une telle situation? Il a montré que le malheur peut être perçu comme une étape qu'il est possible de surmonter. Donc le malheur peut être considéré comme une étape de laquelle agir quelque chose de bon. Parce qu'on va parvenir à surmonter cet obstacle qui paraît intangible, qui paraît intangible. Mais il faut avoir des autres yeux, des yeux de l'espérance, quelque chose peut se produire. Le malheur peut être perçu comme une étape qui est possible de surmonter. Peut-on apprendre par les gens? Parce qu'on peut apprendre la résilience dans nos vies. Alors, beaucoup de gens l'ont déjà expérimenté sans en connaître la notion. On ne connaît pas toujours la notion, mais il y a très peu de gens qui ont expérimenté ça sans qu'on en ait parlé. Hein. Simplement, ils l'ont vécu. Et ça s'est réalisé dans leur vie. Après un choc ou une douloureuse épreuve, un individu peut, à tout âge, entrer dans un processus de résilience. Il s'agit alors d'accepter le coup du sort, de le maîtriser pour ensuite le transformer et pouvoir ainsi continuer à vivre dans le monde. C'est vrai que si on est dans le déni, par exemple, on n'y arrivera pas. Si on est dans le déni, on refuse. On s'imagine que ce n'est pas vrai. On s'imagine qu'on est quelqu'un d'autre, non, on n'a pas de problème avec ça. Bon. Si on parvient à accepter, alors là, il y a une possibilité de surmonter. Il y a la possibilité de voir plus loin. Être résilient, c'est être optimiste et anti-fataliste. C'est aller de l'avant dans l'histoire. Et donc, ça c'est fondamental, c'est anti-fataliste, c'est optimiste. Je crois que c'est important. En tant que chrétien, nous devons être des gens qui ne sont pas pessimistes, des gens optimistes. D'accord? Parce que nous avons les promesses de Dieu qui sont avec nous. Ou bien nous mettons notre foi dans les promesses de Dieu, ou nous avons dit qu'elles ne sont pas. Si on met notre foi dans les promesses de Dieu, nous devenons forcément optimistes. Dieu est avec nous. Il va nous faire sortir de nos épreuves, de nos difficultés. Il ne va pas nous laisser tout seul. C'est ce qu'il a promis. D'être avec nous, nous faire réussir. Alors, même si nous voyons tout le contraire, quand nous avons le choix entre croire l'évidence ou croire ce que Dieu nous dit.
Voilà. Et c'est toujours une confrontation entre le visuel, ce que nous voyons, ce que nous ressentons, et ce que dit la parole de Dieu. Quand nous nous sommes figés sur ce qui se produit autour de nous et en nous, ou alors nous nous déplaçons dans le regard vers ce que Dieu veut, ce que Dieu dit, et ce que Dieu va accomplir dans nous. Alors là, les choses sont en train de changer. Alors, définition, ouais, on l'a déjà dit, hein. La résilience, en d'autres mots ici, la résilience est la capacité d'un individu, d'un groupe à surmonter de très grandes difficultés et à croître dans la vie. Voilà. Donc, il y a des exemples. Le journal de l'enfant. Enfant, ça c'est vraiment pour moi un exemple particulier. Dans son journal, vraiment, elle exprime beaucoup d'espérance. Ne lâche pas son espérance. C'est bien que les difficultés se sont passées. Vous avez alors une vie. Mais il y a quelque chose, elle a un désir et elle reste vraiment, elle croit qu'il y a un autre meilleur. Et puis on nous fait la guerre. Parce que, en arrière, on peut penser que c'est fini, c'est tout plus, comme ça, et que, voilà, on va tous aimer. Et d'autres, on dit non, mais on nous fait. Il y a un début, c'est comme quand on est dans un tunnel. Alors on sait très bien qu'un début d'un tunnel, il est une fin, c'est-à-dire qu'on va tout faire le tunnel. Surtout si nous sommes en mouvement, nous sommes en direction de la sortie de ce tunnel, comme si on y reste. Mais si on voyage dans le tunnel, on sait bien qu'au bout, il y a une sortie. Un début et une fin. Et donc, ça, c'est l'espérance qui nous fait aller vers la sortie. Et Nelson Mandela, dans ce qu'il a vécu aussi, hein, surtout la dernière partie de sa vie, dans la démocratie, il est devenu vraiment. Des vies comme son action, c'est-à-dire que Dieu a tellement conduit mon épargne. Il a compris beaucoup de choses. Alors, dans la Bible, l'exemple le plus célèbre de la résilience, c'est Joseph. On en a parlé vendredi, on était ensemble pour parler de Joseph. Et Joseph est une personne résiliente. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Joseph? Il va subir la haine de ses frères parce qu'il était le plus aimé des frères. Il avait reçu une belle tunique, il y avait une tunique de prince. Et les frères étaient fous de haine, de rage contre lui, et ils le rejettent. Et donc, finalement, il est vendu comme esclave. Et il va finir chez Potiphar, il va l'acheter en Égypte, donc ici, les marchands madianites, qui partaient fixer Joseph hors de la France et vendir au principe d'argent d'Israël qui le menait en Égypte. Et donc, on va pratiquement le considérer comme quoi. On en a fini avec Joseph, le temps d'être parti de là. Et le père va considérer comment c'est ce qu'on manque. Donc il va connaître la mort par rapport à la famille. Il serait comme mort. Et Joseph, ça continue, bien sûr. Joseph étant descendu en Égypte, quand il part avec le pharaon, le grand sur le lien, l'Égyptien a acquis les mains des Ismaélites qui avait amené. Donc ça veut dire esclave. Et puis, pour finir, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais prendre le verset 14, il est venu à moi pour coucher avec moi, j'ai appelé à grand prix. Donc, c'est la femme de Potiphar qui a voulu coucher avec Joseph, parce qu'il est très beau. Elle est jeune, mais elle est très beau. Et donc, cette femme est un instrument du diable, évidemment, pour détruire le règne. Et le rêve, c'était magnifique, hein, le rêve de Joseph. Vraiment, un homme qui a une beaucoup d'autorité et les frères de l'Est se trouver devant lui, c'est ce qui se réalisera un jour par plus d'esprit fidèle. Joseph ne va pas tremper dans le péché, il ne va pas se laisser aller. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand il part en plein de colère, il fit saisir Joseph pour le mettre en forteresse, lieu de détention pour les prisonniers du roi. Et là, il va y rester. Et ce n'est pas un jour qu'il va rester depuis des années et des années. Hein? Donc, il est au moins présent avec les années d'esclavage. Donc, c'était énorme. Mais des années qu'il va souffrir dans l'injustice, dans le contexte, c'est totalement injuste. Il y a de quoi se révolter. Mais Joseph ne va pas perdre son rêve, il ne va pas lâcher, et il va rester, il va croire que Dieu est avec lui, réellement Dieu est avec lui. Dieu est avec lui quand il était esclave chez Potiphar, même quand il était en prison, Dieu est avec lui, il restait droit en Dieu. Et ce qui va se produire à un moment donné, le rêve va commencer à s'accomplir, puisqu'il va être le seul à être capable de faire comprendre le rêve du pharaon. Le pharaon pourra aller plus vite, on va pas reprendre toute l'histoire, c'est trop long. Et il va finalement dire, voilà, il va annoncer les 7 années d'abondance, suivie des 7 années de famine, et c'est lui qui va être nommé premier ministre en Égypte, et donc il deviendra premier ministre, il régnera sur l'Égypte en tout pharaon. Et un jour, c'est vrai que des prêtres vont venir se prosterner devant lui. Et ça, je me dis, ça c'était le rêve qu'il avait reçu. C'était vraiment quelque chose de... Lui-même ne comprenait pas. Mais voilà, ça va s'accomplir. Pourquoi? Dans le but de quoi? Pour sauver la famille. La famille de Jacob, pour sauver le peuple d'Israël, et finalement, pour permettre à la postérité d'Abraham de venir. Et la postérité d'Abraham, c'est Jésus, celui qui est notre sauveur, le sauveur du monde. Donc, si Joseph avait péché avec cette femme, nous n'aurions pas notre sauveur. Hein, il faut savoir que ça passe au travers de cette famille. C'est important de réaliser quand même le rêve de Joseph qui va donner naissance à cette postérité qu'il attend dans la vie. Alors, le processus de résilience dans la vie de Joseph, premièrement, il garde les yeux sur la vision. Il n'affiche pas. Il y a une vision qui n'est pas une vision inventée par lui-même. Il ne s'est pas autosuggéré une vision parce que ça, il aime bien. Il a la vision de Dieu, pas une vision humaine, mais une vision divine, comment Dieu voit les choses. Et ça, c'est important. Et garde les yeux sur cette vision. Il reste droit devant Dieu, parce que c'est pas par le péché au début de l'année que Dieu bénira son cœur. Il n'y a pas de raccourci dans le cœur de Dieu. Et il n'y a pas de choses. Il y a d'autres choses à voir. Gardez l'espérance. Dieu ne faillit jamais. Croyons au Seigneur, Dieu ne faillit pas. Que ce ne soit pas la faillite de notre foi, mais que notre foi puisse saisir la promesse de Dieu. Voir Dieu commencer à établir la vision, parce que il n'en dit pas, tout ne vient pas comme ça. Pour être fidèle, et dans le temps, Dieu agit, Dieu accomplit son œuvre, petit à petit, c'est un processus. La résilience est un processus et l'obéissance à Dieu est un processus. Je vais obéir, faire des choses par le foi, faire ce que Dieu me montre, même si c'est Dieu et même si je ne vois pas toute la lumière. Recevoir l'amour de nos proches, parce que Joseph, une femme qui devient premier ministre, le pharaon lui donne une femme. Et la donner de l'amour. Et ça, c'est pas facile pour nous. Ça peut être aussi un moyen de vision. Parce qu'on peut se parler, on peut, l'autre peut nous faire parler. Et, voilà. Et c'est comme on le dit, hein, par le dessin, par l'écrit, mais aussi par la parole, quand on peut s'exprimer, et on parvient à s'exprimer quand il y a l'amour. L'amour permet pas mal de choses, c'est formidable l'amour. Donc, l'amour de nos proches, on sait se marier, et fonde une famille, et les consoler. Et vous voyez, les deux fils qu'il va avoir, les deux femmes, les deux prénoms sont significatifs par rapport à la consolation. Et là, on ne va pas rentrer trop loin dans le sujet, mais allez voir la signification des prénoms d'Ephraïm, Manassé, ça concerne la consolation qu'il a en Égypte et par rapport au fait qu'il n'a plus sa famille à côté de lui et qu'il est déraciné. C'est extrêmement difficile. S'attendre à Dieu, c'est un homme qui va s'attendre à Dieu en prison. Partout, il va s'attendre à Dieu, il va faire confiance à Dieu. Alors, il va discerner comment Dieu agit. Je crois que c'est très important pour nous de nous attendre à Dieu et de discerner comment Dieu agit. Même si toute la révélation n'est pas encore donnée, si tout n'est pas encore accompli, eh bien, nous voulons discerner comment Dieu s'y prend dans les mains de l'État. C'est très bien. Première chose. Ah, c'est pas moi qui se met à genoux devant lui. C'est-à-dire, il n'est pas encore prêt à ce moment-là. Il a besoin encore de guérison. Le pardon, mais c'est pas encore le donner. Vous voyez, il y a des moments où, des fois, on veut être très évangélique. Alors, on dit, il faut pardonner, mais tout de suite. Mais quelquefois, ça prend du temps. Hein. Vous voyez, ça prend pas mal de temps. Vous savez, l'histoire de Joseph. Des fois, on remet que tout arrive. Je reste sur les films en quelques mots, quelques secondes dans le lit. Ça prend du temps. Alors, Dieu prend son temps pour faire son œuvre. Quand le sculpteur avec une pierre, il va faire une sculpture avec magnifique. Et Dieu prend son temps pour le faire jusqu'au bout. Dieu donne du temps pour penser au péché, pour pardonner. Et au deuxième, à la deuxième prise, il est prêt à l'autre. Il est prêt parce que Dieu lui a parlé. C'est parce qu'ils se sont mis en train de parler. Des choses qui se sont faites dans sa relation de prière avec Dieu, il y a des choses qui se sont accomplies. Et il est vraiment prêt. Il est vraiment prêt à pardonner. Parce qu'il a compris pourquoi ça lui est arrivé. Parce que Dieu voulait sauver toute la famille, tout le peuple. Et il a appris à considérer le chemin parcouru et il a vu la montagne surmonter. Parce que dans le processus, on monte sur une montagne très haute, la montagne de tous nos problèmes qui nous ont submergés pendant un temps. Mais on est en train de monter et puis quand on est sûr, on verra. Et ça vaut la peine de regarder des gens, je suis monté jusqu'ici, moi, je crois que c'est. Ça ne vous est jamais arrivé de monter sur une colline, hein, vous la voyez, quand vous étiez en bas, vous vous dites, je ne sais pas si j'arriverai à ce moment-là. Et puis à un moment donné, vous montez, et puis à un moment donné, vous y êtes. Quand vous regardez en bas, vous vous dites, c'est incroyable, c'est moi qui suis monté jusqu'ici. Incroyable. Et donc, Dieu est celui qui nous surprend si nous sommes fidèles, si nous persévérons dans la pratique, si nous persévérons en regardant en lui, en comptant sur son amour. Dieu est toujours avec nous, son amour aussi. Autre exemple, le roi Josias. Josias, c'est incroyable le roi Josias, mais incroyable. C'est un homme qui vient d'une famille, ouais, l'arrière-grand-père était bien, c'était des cas. Et, mais le grand-père, non. Manassé. Et, le père, c'est pas son nom. Amon. Et donc, là, dans sa famille, c'est pas un peu pour moi. C'est pas vraiment super. Il est devenu un leader exemplaire en surmontant tous les obstacles pour réaliser le plan divin pour son peuple. Incroyable. Son premier obstacle, c'était quoi? Son jeune âge. Il est devenu roi à 8 ans. Enfin, évidemment, c'est moi, il a eu l'aide, hein, bien entendu. Donc, ça va, il y a toujours quelqu'un pour l'aider à prendre de bonnes décisions, évidemment. et il n'avait pas été préparé pour ce rôle et n'avait pas d'expérience. Alors, deuxième chose, son héritage familial était pitoyable et il n'avait pas de rôle modèle positif. Il n'avait pas de modèle devant lui. Alors, c'est quand même beaucoup plus facile quand on a des modèles. Alors, on peut se tourner vers le modèle et dire, voilà, ça je vais laisser plus comme lui, mais sans avoir de modèle, c'est pas évident. Hein. Le père, c'est pas un modèle du tout. Le grand-père, c'est pas un modèle du tout. Vraiment, des exemples catastrophiques pour le roi Jean-Pierre. Et lors de son investiture, le pays était dans un état lamentable. Les idoles, il y en avait même dans le temple. C'était rempli d'idoles. Il y avait des hauts lieux, on sacrifiait pour les dieux de toutes les nations. Même dans le temple. Partout. Et Josias va surmonter toutes ces impossibilités pour devenir un réformateur exemplaire. En s'appuyant sur Dieu et sur sa parole. En fait, il va demander de nettoyer le temple. Et c'est à ce moment-là qu'en nettoyant le temple, dans les préparations, eh bien, les sacrificateurs vont trouver une copie de la loi. Et quand il va dire ça, on va lui apporter, et il va dire, mais c'est quoi ? C'est une copie de la loi. Il y a la première chose qu'il a mis chez les éléphants. Hein, il a prié, jeûné, il a demandé pardon, il a fallu. Il a fait demander pardon à tout le peuple. Le peuple a demandé pardon à Dieu et ils sont revenus par la loi, ils sont revenus au commandement de Dieu. Ils n'ont pas oublié les commandements de Dieu. C'était vraiment dans la catastrophe. Et sa tâche a été de détruire toute l'idolâtrie. Il a détruit tous les photos idolâtres, les lieux où on offrait des parfums aux faux dieux, etc. Il a détruit la trace de tout et a même mis des ossements humains sur l'autel de Bethel, là où il y avait une prophétie au début, qui avait été donnée qu'un roi, un jour, et on a même donné le nom de Josias sur ses talents. Le nom de Josias, on voit, il brûlerait des ossements sur cet hôtel-là pour le désacraliser, le rendre odieux des Israélites. Et il l'a fait, lui il l'a fait. Il était juste envoyé une vie en fait. Lui il était envoyé une vie. Il a liquidé tout ce qui était idolâtre, tout autour. Et il était vraiment très loin. Il a fait une seule erreur, une grosse erreur dans sa vie. C'est de vouloir s'opposer absolument au roi de l'Égypte qui partait sur son territoire. Et le roi, il avait dit, je crois que je dois aller avec le roi de la Syrie. Et il ne s'est pas obligé, mais il s'est frappé. Ça, c'est dommage. Parce que là, il n'y a plus. Mais voilà. Donc, c'est un homme qui était droit et qui a commis de l'ordre comme un réformateur. Pendant 500 ans, il a réformé en fait. Et là, il y avait déjà un fameux réformateur qui demandait la parole de Dieu. Alors, voilà, nous connaissons certainement des gens de notre famille, des voisins, des collègues qui ont vécu ce genre de situation, de remonter d'une situation extrêmement négative et qui est capable de reconstruire sa vie. Alors, pour nous, c'est possible aussi. Hein, c'est possible aussi. Alors, je voudrais vous donner un témoignage d'un journaliste, le journaliste Jean-Paul Kaufmann. Est-ce que tu connais le journaliste Jean-Paul Kaufmann? Nous allons avoir parlé de lui, un journaliste français qui avait été emprisonné au Liban à Beyrouth. Et la seule chose qu'on lui permettait de faire, dans les années 80, ceux qui ont connu cette vidéo, c'est de pouvoir avoir accès à des livres. Et un de ces livres, c'est de la Bible. Alors, sûrement pas à l'école de la Bible, certainement pas d'ailleurs, et il s'est dit pourquoi pas, et il a commencé à lire dans la Bible. Oh oui, il s'est lancé des découvertes, et ça m'a transformé sa vie. Il m'a rendu une grande histoire avec Dieu, parce qu'il a resté 1139 jours en plus. Donc, c'est dans la cellule, c'est dans la prison qui m'a vraiment vécu une relation avec Dieu et qui va être complètement transformé. Complètement transformé. Et je vais simplement dire ceci. C'est parce que son cheminement souffrit énormément ses amis et connaissances lors de sa libération de captivité. La redécouverte de Dieu est grand esprit. N'est-il pas curieux que celui qui retrouve la foi passe obligatoirement pour aller créer sa divinité? Pourtant, précise-t-il, ce temps fut vraiment un temps de remise en question profonde. Et non plus, je crois avoir tué en moi, du moins en partie, le vieil homme. Après ces 1139 jours si terriblement éprouvant à vivre, où en serais-je en Paul Gottman s'il n'avait pas eu la Bible à sa disposition? 20 ans plus tard, lorsque les journalistes seront de nouveau pris en otage, mais cette fois à Jolo, aux Philippines, l'un d'entre eux ne supportera pas le retour à la vie normale et mettra fin à ses jours. Le résultat n'aurait-il pas été différent s'il avait eu à sa disposition la Bible comme le champion de l'Ontario? Voilà, la Bible est un moyen extraordinaire aussi, une source de résilience. Alors, en conclusion, nous pouvons devenir des chrétiens résilients qui rebondissent, qui apprennent à rebondir avec des sorts au-dessus des pieds, là, d'accord? Hein, donc, un petit peu comme une pierre qu'on jette dans l'eau et qui fait bon, ça veut dire que nous soyons capables de rebondir par rapport à nos épreuves. Romains 8, 37 nous dit ceci, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes les choses qui nous arrivent, quelles qu'elles soient, nous pouvons par la foi nous considérer comme étant plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, par celui qui est Dieu seulement, celui qui nous aime et qui est avec nous dans les difficultés, qui n'arrête pas d'être avec nous. Ce n'est pas un Dieu qui est avec nous avant l'épreuve et qui nous laisse tout seul dans l'épreuve, mais c'est un Dieu qui est avec nous dans l'épreuve. Il a la capacité de nous ramener à la surface et de nous faire plus que vainqueurs. Comme Joseph était considéré comme mort, je disais, pardon, et Dieu, c'est comme s'il avait ressuscité par le fait qu'il soit devenu premier ministre. Et il y a eu un enchaînement de faits, et en fait, c'est au travers de lui que toute la nation a été sauvée, une forme de résurrection. Dieu nous donne d'espérer et de pouvoir transformer nos circonstances négatives par la foi en celui qui nous aime et qui nous restaure. Nous pouvons guérir toutes nos blessures et réussir à accomplir ce qu'on veut. Je vous remercie.